Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 8h16, ce matin le petit déjeuner politique, c'est Agnès Evren, vice-présidente des Républicains et députée européenne.
Bonjour Agnès Evren.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La campagne présidentielle qui s'accélère, les attaques de la majorité, votre positionnement face à Éric Zemmour, sans oublier la crise sanitaire. On va revenir sur tous ces sujets, mais d'abord, c'était ce week-end à la Mutualité, le premier discours de campagne de Valérie Pécresse après sa victoire au Congrès des LR. Pour gagner, il faut d'abord être fort chez soi, c'est ce qu'elle a dit. L'union de la droite, la synthèse à droite, c'est encore l'enjeu principal pour votre camp aujourd'hui.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est Valérie Pécresse qui est la seule capable de faire la synthèse de la droite forte jusqu'à la droite sociale. Et on a montré justement l'image d'une famille totalement rassemblée et unie derrière une vision commune, une droite qui ne met pas son drapeau dans la poche. Et nous avons la fierté, pour la première fois, et c'est un moment historique quand même pour une famille gaulliste, de porter la candidature d'une femme à la présidence de la République. Et je suis absolument convaincue que seule Valérie Pécresse est capable aujourd'hui de remporter le deuxième tour, évidemment, si elle y accède. Mais il faut dire que, vous savez, à chaque présidentielle, on nous annonce un match joué d'avance et on voit bien qu'en fait, c'est Valérie Pécresse qui a bousculé justement ce duel qui était soi-disant entre deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Aujourd'hui, Valérie Pécresse a bouleversé la donne.
La route est encore longue quand même.
La route est encore longue, mais enfin, vous voyez bien que la dynamique est de son côté et qu'elle est la seule alternative crédible aujourd'hui à Emmanuel Macron.
À la sortie d'un congrès des LR quand même.
Donc les jeux sont totalement... Les jeux sont totalement ouverts. Non mais attendez, ça fait 6 mois qu'on nous bassine, ça fait 1 an qu'on nous bassine avec un duel joué d'avance Macron-Le Pen. Et aujourd'hui, on voit bien que les choses ne se passent jamais comme on les attend en politique et que seule Valérie Pécresse, encore une fois, est aujourd'hui capable de battre Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est pour nous non seulement une grande première, mais surtout, sur le fond, nous sommes les seuls à avoir un projet raisonnable, un projet de rupture avec 5 ans de macronisme, c'est-à-dire un projet de rupture tout simplement avec 5 ans d'immobilisme.
Ça veut dire que pour vous, la synthèse Éric Ciotti-Valérie Pécresse, elle est déjà faite. C'est bon.
Mais bien sûr, vous savez d'ailleurs, Éric Ciotti lui-même le dit, le projet de Valérie Pécresse est le même que le sien, à quelques nuances près. C'est une droite qu'elle porte qui est très ferme sur le régalien, mais qui est également réformatrice, libérale et sociale. Alors, je vous prends un exemple, par exemple, sur, sur les questions régaliennes. Si on prend, par exemple, le Guantanamo qui avait été proposé par Éric Ciotti, elle aussi, elle a une mesure très très forte qui est proposée, notamment sur la rétention de sûreté. C'est-à-dire qu'à la sortie de prison, les terroristes seront donc astreints à un centre de rétention de sûreté. Vous voyez, donc elle a des mesures comme ça très très fortes sur le régalien. Et je peux vous assurer, pour bien la connaître, parce que j'ai été sa vice-présidente à la région Île-de-France, Valérie Pécresse, c'est pas du robinet d'eau tiède, c'est tout l'inverse. Elle est pour le coup une femme de conviction et de solution. Et elle ne met pas son drapeau dans la poche, donc je le dis à tous les électeurs qui sont tentés par Éric Zemmour, revenez à la maison, parce que Éric Zemmour, c'est un vote, c'est une impasse électorale en fait, parce que voter Zemmour, c'est indirectement faire le jeu d'Emmanuel Macron, parce qu'il ne gagnera pas la présidentielle, contrairement à Valérie Pécresse.
C'est-à-dire que Valérie Pécresse est une vraie candidate de droite aujourd'hui, c'est ce que vous dites finalement. Elle n'est pas l'otage d'une certaine façon d'Éric Ciotti, ce sont des convictions propres à elle.
Écoutez, Valérie Pécresse, c'est la présidente de la première région d'Europe. Elle n'est l'otage de personne. Et encore une fois, je le redis, c'est une femme d'État qui a fait de l'Île-de-France un laboratoire d'expérience pour la France. Elle ne sera l'otage de personne. Et encore une fois, c'est une femme de caractère, c'est une femme de solution, c'est une femme de conviction. Et qui surtout, c'est une dame de fer. C'est-à-dire qu'elle veut faire. Quand elle dit Emmanuel Macron, il est là pour plaire, moi je suis là pour faire. Moi j'ai vu son bilan à la région Île-de-France sur des tas de sujets, notamment sur la réduction des dépenses publiques, par exemple. Elle fera sur les questions régaliennes, elle fera sur le social, elle fera. Donc elle n'est l'otage de personne. Et encore une fois, elle est même... l'incarnation, je trouve, d'une droite extrêmement courageuse, d'une droite, encore une fois, qui est fière de ses valeurs et de ses convictions.
Vous dites, Agnès Evren, qu'elle est la seule alternative, finalement, à Emmanuel Macron. Pourtant, pour beaucoup de Français, elle est Macron-compatible, ou elle l'a été, ou on a pensé à elle potentiellement comme une possible première ministre d'Emmanuel Macron. C'est pas surprenant. Est-ce qu'il n'y a pas, justement, une nécessité, à un moment, d'expliquer aux Français ce qui est la différence entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse?
Non, mais... Alors ça, c'est typiquement les arguments des adversaires de Valérie Pécresse qui essaient, par un écran de fumée, faire croire qu'en fait, elle est macroniste. Elle, c'est tout l'inverse. Encore une fois, déjà, par nature, Valérie Pécresse, c'est une faiseuse. Elle aime construire, elle aime bâtir. Emmanuel Macron, pardon, mais sont en même temps a conduit à une forme de nulle part, a conduit à un immobilisme. On est dans le flou. Elle est dans la clarté.
Dans une situation de crise aussi.
Elle est dans la clarté. Et je peux vous assurer que tout ce qu'elle promet, elle le fera. Je vous donne juste un exemple. Quand elle a été présidente de la région Île-de-France, en juin 2021, un mois après, elle a fait voter 80% de son programme. Et donc là, elle est non pas seulement dans la conquête du pouvoir, mais dans l'exercice du pouvoir. Elle nous a demandé, en fait, à toutes les équipes qui vont travailler autour d'elle, d'être prêts pour le 24 avril et de préparer les principaux projets de loi qui vont être mis en application dès le 24 avril. Vous voyez, donc elle est une femme de solutions concrètes et donc elle fera encore une fois ce qu'elle a promis dès aujourd'hui.
En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'elle est la cible numéro une, on peut le dire, du ministre, de la majorité. Pas mal d'attaques, alors, notamment du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, je le cite, hein, qui voit Valérie Pécresse comme une bonne candidate pour Versailles, pas pour Tourcoing. Christophe Castaner qui parle de l'ancienne ministre du Budget et qui a augmenté les impôts de 15 milliards. Le flou dont parle le programme fou, plutôt, dont parle François Bayrou. Comment vous les prenez, ces attaques?
Je les prends très positivement. Je trouve que c'est un excellent signe pour Valérie Pécresse. Ça prouve que
qu'elle
c'est
a augmenté les impôts à l'époque.
C'est la panique à bord chez la Macronie. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi inventer. Franchement, dire qu'elle est versaillaise, non mais ça n'a aucun sens. D'abord, elle est présidente de la région Île-de-France et on sait que 50% du territoire francilien est rural, je le rappelle. Et puis deuxièmement, moi je trouve ça assez misogyne. C'est quoi l'étape d'après? C'est de la traiter de blonde? Enfin, honnêtement, moi je trouve que ces attaques sont plutôt positives dans la mesure où elles démontrent que si on en est à des arguments aussi courts et aussi peu, j'allais dire même intelligents, ça prouve que, en effet,
mais alors sur la
c'est
question
elle
de
qui
la hausse des impôts quand elle
Emmanuel
était
Macron.
Quand elle était ministre du Budget, sur la hausse des impôts de 15 milliards, là on est sur un argument de fond pour le coup. Vous répondez
non
quoi
mais
là-dessus?
Regardez, je ne sais pas si vous avez vu l'étude qui a sorti ce matin l'OCDE et qui alertait justement sur la gravité de l'état des finances publiques françaises et sur la gravité de la situation économique. Aujourd'hui, on a une dette abyssale, 3 000 milliards d'euros. On a une dépense publique qui a explosé. Pour quelle raison? Parce que ce gouvernement n'a fait aucune réforme structurelle. Et elle, justement, elle propose cette réforme de retraite que ce gouvernement n'a pas fait. Ce gouvernement, finalement, n'a absolument pas réformé. Quand je dis que Valérie Pécresse est une réformatrice, elle, je peux vous assurer qu'elle s'attaquera à la réduction des dépenses publiques. Et c'est ce qu'elle a fait, d'ailleurs, à la région Île-de-France, où elle a drastiquement baissé les dépenses de fonctionnement. Donc, vous savez, tout ça, ce sont des arguments politiciens qui sont utilisés pour essayer de la discréditer, mais ça ne fonctionnera pas, parce qu'encore une fois, voilà, c'est notre championne au Congrès, et elle porte un projet de rupture avec le macronisme et avec 5 ans d'illusionnisme, en quelque sorte.
Vous avez parlé de la ruralité, notamment, il y a cette suppression de 250 000 postes de fonctionnaires. Quand on voit sur certaines zones rurales, justement, où il n'y a plus de services publics, est-ce que ça a du sens de supprimer autant de fonctionnaires?
Oui, ça a du sens, parce qu'elle en rajoute, et ça a été très clairement dit, 50 000 pour soigner, pour protéger et pour accompagner. Donc partout où ce sera nécessaire, dans l'éducation ou dans les milieux médicaux, naturellement, vous savez, c'est une femme de bon sens. C'est une femme d'ordre, mais c'est aussi une femme de bon sens. Donc elle ne supprimera pas des postes là où c'est nécessaire pour le quotidien, pour la ruralité et pour tous les territoires, en fait. Parce qu'elle est pour un équilibre, un développement équilibré des territoires, pour que chacun puisse vivre dignement là où il habite.
Votre premier adversaire, si je vous entends bien aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, si on a bien entendu aussi Valérie Pécresse ce week-end. Ça veut dire qu'Éric Zemmour, qui baisse en ce moment dans les sondages, n'est plus une menace pour vous aujourd'hui?
Éric Zemmour, écoutez, on est différent dans la vision qu'on porte. C'est-à-dire que lui, il est dans la nostalgie d'un passé réinventé. Nous, on veut construire l'avenir. Nous, ce que je veux dire, moi, juste à ceux qui sont tentés chez nous d'un vote Zemmour, c'est qu'ils comprennent bien que c'est une impasse électorale, parce que Éric Zemmour ne gagnera pas la présidentielle. Aujourd'hui, après un quinquennat d'Emmanuel Macron, on a une société qui est fracturée, archipélisée, avec une exacerbation des inégalités sociales et territoriales. Et on a besoin, il y a un impératif national de rassembler les Français, de les réconcilier, de les réunir. Et ce n'est pas Éric Zemmour qui répond justement à cette unité demandée, à cette cohésion nationale. C'est Valérie Pécresse, encore une fois, qui, je le répète, quand elle dit qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est de faire de nouveau nation. Et c'est un défi, en effet, pour la France de rassembler, de réconcilier les Français et de garantir l'unité de la nation.
Mais ça veut dire, au-delà de ça, que vous reprenez certaines thématiques d'Éric Zemmour, que vous comprenez finalement les attentes.
Oui, vous savez, sur certains constats.
De certains Français là-dessus.
Oui, oui, il a raison sur certains constats qui sont révélateurs, en fait, des non-dits d'une société fracturée. Mais il n'apporte pas les solutions. Vous voyez, sur certains constats, on peut tout à fait être d'accord. Il y a une peur identitaire aujourd'hui, il faut l'entendre. C'est vrai qu'il a placé au centre du débat des thèmes comme l'immigration, l'identité, l'insécurité. Mais il y a aussi le pouvoir d'achat, il y a aussi la transition écologique, il y a aussi les questions de croissance économique, il y a aussi les questions d'éducation. Voilà, sur tous ces sujets-là, nous avons, nous, évidemment, des solutions à apporter. Donc, il ne suffit pas de parler d'immigration, d'islam et d'identité pour résoudre tous les problèmes de Français, ni même s'appeler Marcel Zidane, par exemple, pour régler des problèmes d'identité.
Éric Zemmour, qui était ce week-end en Arménie avec Philippe de Villiers, juste avant d'ailleurs Valérie Pécresse, qui a prévu de s'y rendre avant Noël. Il vous a un peu coupé l'herbe sous le pied, finalement, Éric Zemmour, là-dessus.
Mais écoutez, sans doute, parce qu'il avait appris que Valérie Pécresse allait se rendre également en Arménie, notamment avec Bruno Retailleau. Mais bon, ça, c'est de la politique, hein, ça fait partie de l'agenda politique. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous sommes aujourd'hui rassemblés, nous avons un projet cohérent, nous ne mettons pas notre drapeau dans l'approche et nous avons, un projet qui permettra tout simplement de battre Emmanuel Macron pour rompre avec ses 5 ans de macronisme.
Pour comprendre un petit peu, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui pour Valérie Pécresse d'aller en Arménie?
Écoutez, je pense qu'elle a tout simplement besoin de rencontrer. Il y a une communauté arménienne importante aussi en France qui compte et dont elle a toujours été très proche en tant que présidente de la région Île-de-France. Donc je trouve que ça a du sens aussi d'aller voir nos alliés arméniens.
Sur les chrétiens d'Orient aussi, notamment, c'est
exactement,
un sujet aussi.
Exactement, bien sûr, sur les chrétiens d'Orient. Elle travaille beaucoup d'ailleurs avec Patrick Karam, qui a fait un travail assez incroyable, justement, vis-à-vis des chrétiens d'Orient. C'est un sujet qui a tout son poids et qui aura tout son poids dans la campagne dans la campagne présidentielle.
Ça veut dire qu'on peut faire un parallèle avec la France sur une civilisation chrétienne qui serait menacée comme elle l'est en Arménie, c'est ça aussi l'idée?
Pas forcément l'idée, mais les chrétiens d'Orient ont toujours occupé une place importante en Île-de-France et je trouve que très souvent, ils ont été un peu laissés de côté. Ils n'ont pas été assez considérés, écoutés, donc c'est important en effet de leur donner un signal politique.
L'actualité, Agnès Evren aussi, c'est cette gauche française qui s'enlise, notamment le Parti Socialiste. Quand vous voyez un parti de gouvernement qui plonge comme ça, ça vous inquiète, vous, en tant que alors, femme de droite, mais des Républicains, parti de gouvernement aussi, c'est une source d'inquiétude?
Oui. Franchement, oui, je trouve que c'est pas bon pour le débat démocratique, qui a toujours été polarisé entre d'un côté la gauche et la droite. Et je trouve que la gauche fait aujourd'hui pauvre figure, c'est-à-dire que la gauche est aujourd'hui coupée en deux, morcelée, divisée, avec d'un côté une gauche qui, heureusement, reste attachée aux valeurs universelles et aux valeurs républicaines, mais d'un autre côté, une gauche à la dérive, une gauche identitaire qui dérive, en fait, vers plus de communautarisme, de racialisme, d'indigénisme, et qui, finalement, a perdu ses valeurs. Quand on entend, dans le 12e arrondissement de Paris, un maire écolo qui refuse les sapins de Noël, voilà, c'est cette gauche hors sol, en fait, qui nie tout simplement quelle est l'histoire de la France. La France, c'est aussi les sapins de Noël. Donc voilà, je vous dis, cette gauche coupée en deux entre une gauche bobo hors sol et une gauche qui reste heureusement attachée aux valeurs universelles. Mais Anne Hidalgo était la candidate par défaut, en fait, dans cette élection. Personne ne voulait porter le drapeau du Parti Socialiste en 2022 parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce qu'ils n'ont pas tiré de leçons de leurs échecs. Et je suis bien placée pour le savoir. Nous avons travaillé, nous avons tiré des leçons de ce qui nous est arrivé. Et surtout, nous avons désormais un projet solide, un projet de rupture, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Moi, je suis incapable de vous dire, ils sont d'accord sur rien, en fait. Vous vous rendez compte qu'ils ont quand même 7 candidats. Nous, on est alignés sur l'essentiel. Eux ne se mettront d'accord sur rien parce qu'encore une fois, tout les sépare.
Réaction également sur le non qui l'a emporté une nouvelle fois en Nouvelle-Calédonie au sujet de l'indépendance. C'est une victoire un peu en trompe-l'œil avec le boycott des indépendantistes, avec cette abstention record, finalement.
Non, au contraire, ils ont dit par 3 fois oui à la France. Et donc, c'est un attachement viscéral qui a été montré par la Nouvelle-Calédonie à la France. La Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Alors oui, il y a eu une abstention, bien sûr, comme vous le dites, mais c'est aussi, les indépendantistes. Donc, ça va de soi. Mais ce que je retiens surtout, c'est que heureusement, la fierté de la France, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie. Mmh. L'outre-mer, c'est la France. Et donc, c'est cette identité française et européenne à laquelle ils ont redit tout leur attachement. Et c'est évidemment une très, très bonne nouvelle.
Le Covid, pour conclure, Agnès Evren, Olivier Véran qui assure que nous sommes en train d'atteindre le pic de cette cinquième vague. Selon vous, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de nouvelles mesures d'ici Noël ?
Écoutez, c'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas une spécialiste du Covid. Ce que je découvre surtout, c'est que le virus, on en apprend tous les jours. Donc, c'est très, très difficile d'anticiper. Ça fait maintenant près de 2 ans qu'on est dans cette crise. Ce qui compte aujourd'hui, c'est une accélération de la 3e injection. Ça, c'est très, très important. Et puis, on verra ensuite comment les choses... Mais c'est vrai que d'ici le mois d'avril, puisque la question avait été posée à Valérie Pécresse, elle a toujours été extrêmement transparente. Mais c'est pas à moi de dire ce qui va se passer d'ici au mois d'avril. Je reste humble et modeste face à un virus que personne n'a réussi à appréhender.
Est-ce que vous comprenez que finalement, on est dans une crise sanitaire et on est à 4 mois de la présidentielle et finalement, on a l'impression qu'entre les candidats, on parle assez peu de la santé, des problèmes du côté des hôpitaux, finalement, du manque de moyens. C'est surprenant ou pas, justement, que ce sujet ne soit pas assez abordé ?
Vous avez raison, mais ça va venir. Vous savez, là, c'est vrai que nous, par exemple, pour parler de la famille de la droite et des Républicains, on était dans un débat interne. On était dans un débat interne, et donc ce débat interne, certes, nous a fait du bien, mais on était comme dans une forme de nébuleuse, en fait, qui était bien en interne, mais du coup, les débats de fond vont être enfin exprimés devant les Français, désormais. Mais c'est un sujet absolument prioritaire, et évidemment, tous les candidats à la présidentielle devront en parler. C'est un sujet que nous portons, nous, avec Philippe Juvin, qui fera évidemment partie de cette équipe de France que nous proposerons.
Et pour affronter notamment Emmanuel Macron et les différentes mesures qui ont été prises finalement durant cette crise, notamment.
Oui, absolument. Mmh. D'ailleurs, nous, on a accompagné le mouvement. Hein. On est un parti de droite, un parti responsable. Et donc, en tant que parti responsable, nous accompagnons toutes les mesures qui visent à protéger les Français contre ce virus.
Agnès Evren, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, vice-présidente des Républicains, députée européenne. Merci à vous et bonne journée.
Merci.
Reste avec nous dans un instant, un point sur l'info et juste après notre grand débat avec Arlette Chabot, Christine Bouillot, vos appels 0826-300-300, on reviendra sur cette gauche fracturée. Oui. Donnez-nous vos impressions et commentez bien entendu sur notre compte Twitter. À tout de suite.